Vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance de l'industrie. Alors aujourd'hui, je peux parler anglais, je peux le dire à l'américaine, Industrial Growth, parce que je suis avec Luc Leroy, qui est basé justement en Californie, dans la Silicon Valley. Luc, je suis ravi de t'avoir parmi nous. Bienvenue.
Merci, bonjour Karim, bonjour à tous.
On peut peut-être commencer, comme je le fais d'habitude sur le podcast, par une présentation. Je te laisse nous dire un peu qui tu es et d'où tu parles et qu'est-ce qui fait qu'on se parle aujourd'hui, quoi.
Avec plaisir. Alors donc Luc Leroy, ingénieur français qui a émigré aux États-Unis il y a un petit peu moins de 20 ans, après le rachat de notre start-up française qui s'appelait Okies par un groupe Adobe. Et nous avions inventé le PDF 3D. Donc, ça permettait la collaboration dans le monde de la CAO, ce qui
D'accord.
aujourd'hui paraît complètement anodin. À l'époque, c'était une autre paire de manches. Et donc, voilà, ça fait maintenant 18 ans que je suis dans la baie de San Francisco.
OK. Donc, tu es installé là-bas. Alors, Adobe, ils en ont fait quoi du coup du rachat? Ça, c'est quelque chose qui a été intégré dans la suite de produits Adobe? Parce que je ne suis pas te vexer, j'ai entendu quelqu'un dire l'autre fois, il m'a fait rire. Il m'a dit, c'est Adobe, c'est l'endroit où les logiciels meurent.
Il y a beaucoup de boîtes comme ça, malheureusement.
Ouais. Du coup,
Alors,
ça me fait penser à ça.
c'est ce qui s'est passé, pas vraiment, mais donc en fait, Adobe a vu une opportunité et notre état d'esprit, hein, le business model, c'était autour de la collaboration 3D. Il faut imaginer que des graphistes puissent échanger avec des motoristes
D'accord.
et des gens du marketing. Bon, il y a 20 ans, c'était compliqué
Ouais,
d'avoir
donc
des
c'était un peu
rendus
nouveau.
3D, voilà. Et donc, nous avons fait ça a bien fonctionné. On a vendu ça à Adobe. Et assez rapidement, une équipe qui s'appelait Acrobat Manufacturing, donc déjà, j'avais un pied plus sérieusement dans le monde du manufacturing, a été mise en place. On a fait une première version. Ça a été un succès relatif. Mais je crois que très rapidement, la direction chez Adobe s'est rendue compte que le manufacturing, la PLM, tout ça, c'est pas leur corps métier.
Ouais,
Et
donc ils sont revenus un petit peu en arrière après.
voilà, avec un point plutôt embêtant qui était que il y avait déjà des obligations décennales avec des grands groupes, donc à savoir le gouvernement américain pour commencer. Et
D'accord.
puis nous avions des clients comme Airbus, Renault, voilà, des gens comme ça, auprès de qui nous devions assurer le suivi.
Maintenance,
Hein,
le
ils avaient
suivi du
investi
logiciel.
des millions d'euros pour pouvoir communiquer autour du PDF 3D. Et comme c'était un peu mon bébé, puisque j'étais directeur technique de cette boîte qui avait été rachetée, je me suis porté volontaire pour continuer le sustaining, comme ils appellent ça,
D'accord.
pendant 5 ans et garantir la bonne exécution de la maintenance d'Acrobat 3D auprès d'une société qui a racheté le produit et qui a
OK.
continué de le développer.
Donc, ils ont
Donc le produit
revendu
existe
après.
toujours. Voilà,
D'accord, OK.
il existe toujours sous un autre nom, c'est très populaire. Et donc ça m'a permis de découvrir, parce que d'une part, on était intégré dans Acrobat et Reader, donc 600 millions d'utilisateurs à l'époque, en 2005. Aujourd'hui, ça fait sourire parce que les TikTok et autres, s'il n'y a pas des milliards, on est ringard.
Ouais.
À l'époque, il n'y avait
C'était
pas
déjà énorme, ouais.
de App
Ouais,
Store. Voilà, on pouvait tout faire à la main, hein. Donc voilà, ça m'a permis de passer 10 ans chez Adobe, où j'ai eu 5 métiers différents, et où ultimement je me suis occupé d'Acrobat, Reader, Scan, la signature sur les smartphones. Donc très intéressant, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, que ce soit d'un point de vue méthodologie au niveau de l'ingénierie, mais aussi le développement organisationnel, comment une boîte américaine, comment un leader américain tourne. Comment on sort 10 produits par an avec la qualité qu'on connaît chez Adobe. Donc ça,
D'accord.
c'était intéressant. Ouais.
Donc ça, c'est ce que tu retiens. Et justement, alors ça, tu as passé quelques années, donc tu vas pas me faire une synthèse en 10 minutes. Mais s'il y avait deux ou trois points vraiment que tu retiens de ton passage chez Adobe, et de ce que tu as appris, est-ce que tu retiens de l'expérience que tu as eue là-bas et qui peut bénéficier à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, en tout cas qui peut interpeller par rapport à comment ça se passe en France aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens, toi?
Alors, les choses qui m'ont marqué en arrivant, hein, et puis on est un peu condescendant pour être honnête. On est une start-up, on a l'habitude de faire une release toutes les semaines, et là d'un seul coup on nous parle du prochain trimestre, ça paraît lointain. Mais il y a une notion d'opération, hein, d'exécution, qui est très puissante. C'est-à-dire qu'on déroule le tapis et rien ne va arrêter la machine. Donc c'est paradoxalement, on a l'impression d'arriver chez les bisounours, hein, le progrès social dans la Silicon Valley. On n'est pas obligé de travailler plus de 6 heures par jour. Tant qu'on livre, tout va bien. Les bureaux, c'est fantastique. Qualité de vie extraordinaire, bien payé. Mais en face de ça, il faut vraiment que ça livre. Et c'est impitoyable. Donc, c'est un peu dichotomique. Il y a ce paradoxe dans le monde, dans l'entreprise américaine, qu'on retrouve à tous les niveaux. Je le vois, on a une distribution à peu près 50-50 entre la France, donc nous avons un bureau à Angers. On se passe aujourd'hui le gros de la R&D pour Vitesse, notre produit, et un bureau ici dans la Silicon Valley à Los Gatos. Je vois bien que les attentes au niveau des itérations, des directions ne sont pas les mêmes. En France, on va agir très vite, de façon très incrémentale. Aux États-Unis, on va se forcer, ça demande une discipline, à être très patient. Mais par contre, le niveau de décision prise, on va dire, au trimestre, va être très lourd.
Important, ouais.
Voilà,
on
va pas avoir peur de complètement réviser l'outil de production, les méthodologies, virer des gens, les remplacer, les déplacer. Tout ça, ça ne fait pas peur. Donc, on a l'impression que c'est lent, mais en réalité, il y a des grosses marches qui tombent comme ça très régulièrement. Et quand on fait le bilan en fin d'année, on se rend compte que le progrès lent a été plus rapide que toutes les
itérations.
Plus rapide que les itérations
qu'on a voilà. pu tester, se tromper, etc., qu'on peut faire ici. Quoi. Okay.
Voilà. Et souvent, ça se vaut au final. Hein. Ce sont deux méthodes qui sont compétitives et parfois, on va plus vite là que là. L'inverse est aussi vrai.
D'accord. Donc, tu as passé quelques années chez Adobe et ensuite, qu'est-ce que tu as fait ? Tu es resté dans la Silicon Valley pour le coup ?
Oui, alors je suis toujours dans la Silicon Valley. Alors, il y a eu plusieurs choses, le petit électrochoc de « tiens, ça fait 10 ans quand même que je suis chez Adobe ouais. », même si j'ai fait différents métiers. Et puis, je suis quand même un start-upper. Donc, c'est fou d'ailleurs, ça en dit long. Hein. J'avais monté 3 boîtes en France. Je n'avais jamais travaillé pour une société de plus de 60 personnes. J'arrive chez Adobe, je reste 10 ans. Ouais, donc, il y a quand même un travail.
Voilà. Tu as réussi
ils arrivent quand même à retenir les gens.
Ouais.
Exactement. Donc, ils sont très bons à ça. Et je voulais quand même revenir vers, d'une part, le monde du manufacturing, parce que j'adore la PLM, le CAD, la supply chain, tout ça. C'est vraiment mon grand plaisir. Et puis, le monde des startups. Du coup, j'ai quitté Adobe en 2015. Je suis allé travailler pour une société qui s'appelle Dacry, qui faisait de la réalité augmentée, qui était le leader en fait à l'époque, avec un produit qui s'appelle le Smart Helmet. Donc c'était un casque, comme un casque de chantier, ouais. Qui te transforme en un mélange de Iron Man et Predator. En gros.
Predator.
Voilà. Si je dois le décrire très rapidement, parce que vision infrarouge, réalité augmentée en 3D, c'était vraiment fantastique, un très beau produit. J'ai tout de suite été séduit, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et au bout d'un an, je me suis rendu compte qu'il y avait au moins encore 10 ans de développement au niveau des technologies d'affichage et de perception. Donc je suis allé encore plus près du manufacturing, je suis allé dans l'additif. Ouais. Donc Vélo, une société qui faisait des grosses imprimantes 3D. Et notre premier client, c'était SpaceX.
D'accord.
Donc okay. Ça a commencé à me rapprocher un peu du monde SpaceX, Tesla, etc. J'ai fait un an chez Vélo. J'ai tenté de monter une boîte de robotique moi-même. Je suis arrivé trop tard sur le marché, en fait. Donc, j'étais seul. Je n'ai pas poussé sans financement. Très rapidement, j'ai commencé à regarder d'autres opportunités. On m'offrait de retourner chez Adobe, ce qui était très tentant,
ouais.
Pour diriger l'expérience utilisateur pour tous les produits du Creative Cloud. Donc, d'accord. Ça, c'était vraiment séduisant. Hein.
Les Photoshop, voilà. les InDesign, etc., etc.
Voilà, After Effects, ah ouais, Premiere, ouais. Tous ces trucs-là. Donc, des beaux produits, hein, une belle suite.
Ouais.
Et je rencontre une personne qui est devenue mon patron chez Tesla, qui je dis que je retourne chez Adobe. Donc, je m'étais déjà engagé. J'avais signé mon contrat, tout. J'étais censé démarrer la semaine suivante. Et je rencontre ce monsieur, donc Doug Field, qui était le Chief Engineering Officer, donc le numéro 3 chez Tesla à l'époque, un ingénieur et un leader brillantissime. et qui me dit mais donne-nous une chance, passe-moi ton CV, je vais le passer au président du logiciel. Et effectivement, en 72 heures, ils m'ont interviewé, ils m'ont challengé, ils ont fait le suivi et ils me font une offre. Donc là, je suis assez étonné quand même de leur agilité.
Ouais, c'est clair.
Et puis je me dis, c'est quand même tentant. J'étais un early adopter Tesla puisque j'avais acheté ma première Model S en 2012. Donc, croyant, pratiquant, j'avais des stocks Tesla. Je me dis, ça serait quand même tentant, j'adore l'automobile. Ils font tout ce que j'aime. On le tente. Et mon boulot, en fait, c'était d'aider à l'intégration de l'autopilote dans le firmware véhicule. Okay. Donc, rien à voir avec la production.
Ouais.
Sauf que très rapidement, on peut imaginer, hein, sur le Model 3, les procédures de calibration, de validation, des caméras, de la perception, étaient impliquées dans l'assemblage final du véhicule. Et donc, très régulièrement, voilà, un coup de fil, ça se passe mal, on a un bug dans le firmware, il faut comprendre pourquoi la voiture n'avance pas à la station suivante. Et je me suis retrouvé très légèrement impliqué dans la fabrication du Model 3.
D'accord.
Jusqu'au jour où je reçois un texte de Doug, donc Doug Film, texte, me demandant si je connais les automates programmables, donc les PLC, les contrôleurs qu'on trouve dans les usines, et si je connais la PLM et le manufacturing. Alors, je lui dis, PLC, j'ai travaillé avec la PLC une fois. Donc, une fois. Et manufacturing, je fais de la PLM depuis 20 ans. Donc, je pense que ça va. Ouais. Il me répond, good enough and fair enough.
Ça suffit.
Donc, ça ira. Voilà. Ça ira bien. Rencontre-moi demain matin, 8 heures, Frémont. Je n'étais jamais allé à l'usine de Frémont. Et j'arrive. Et donc, il y a l'assistante de Doug qui me reçoit. Et on part sur la ligne d'assemblage. Et là, surprise, il y a Elon Musk qui est là avec un programme manager, Doug Field, deux, trois autres ingénieurs de production, je pense. Et puis, nous voici partis sur la ligne de production du Model 3. Et moi, j'ai mon Mac chargé. Donc, j'étais le patron du programme management pour firmware autopilote. Donc, je me dis, à un moment donné, il va me sauter à la gorge en disant, tu vois, c'est là que l'autopilote ou le firmware nous embête, on n'arrive pas à produire, corrige-moi ce truc-là immédiatement. Et puis, on continue, je prends des notes, je ne suis jamais impliqué, on ne me pose aucune question. Très bien, Ilan s'en va. Ouf, je n'ai jamais entendu autant de grossièreté de ma vie en une heure. Des F et des S-word, ça y allait.
Mais il paraît que c'est le signe des gens intelligents, tu vois, de dire des grossièretés, on m'a souvent dit ça.
D'accord, bon.
Il paraît.
On peut s'y mettre, hein, si tu veux.
Non, je déconne.
Mais j'ai pas trouvé ça forcément utile. Par contre, j'ai été très impressionné par Ilan, bien entendu, et Doug, leur capacité à, et ça aussi, c'est très américain, le leadership, quel que soit le niveau dans la hiérarchie, qui va plonger dans des sujets et questionner, challenger, remettre en cause, contribuer et faire avancer le problème. C'est l'affaire de tous. On va pas dire, c'est de leur faute, tiens, lui, il est nul, c'est de sa faute. C'est non, toute la hiérarchie est responsable.
On cherche pas à sortir le parapluie pour savoir où ça a merdé, on essaie de trouver la solution.
Voilà. Alors, c'est plus vrai dans les petites boîtes que les grosses, hein, bien entendu. Dans les grandes boîtes, il y a de la politique,
oui, bien sûr.
Comme dans tous les grands groupes. Mais il y a un ordre d'échelle sur les boîtes américaines qui performent où la responsabilisation de tout le monde, c'est quelque chose qu'on sent. Et d'ailleurs, dans le système de performance, hein, de récompense, on le voit bien, hein, les team players. Il y a les top performers, il y a les team players. Un team player, c'est pas forcément le ou la plus intelligente, mais c'est la personne qui va être impliquée, qui va dépatouiller les situations, ça va être reconnu. Cette personne va être autant récompensée que doctorant qui fait des choses extraordinaires, tu vois.
Ouais, je comprends.
Et donc à la fin de cette conversation, Doug Field me demande es-tu intéressé par le boulot? Alors je dis, mais quel boulot? Ça fait un mois et demi que je suis chez Tesla. J'ai un nouveau boulot. De quoi parles-tu? Il me dit, Ilan a viré le directeur d'automation hier soir. on cherche un leader intérimaire pour aider l'équipe à avancer le temps qu'on en trouve un nouveau. Okay. Bon, combien de temps? En quelques mois, etc. Quand attends-tu la réponse? Il me dit ce soir. Ah oui. Et bah, évidemment, j'ai accepté. Et puis, je me suis retrouvé à la tête de cette équipe d'automatisme chez Tesla. Et je pense que ma perspective bah, d'ingénieur français qui a fait beaucoup de logiciels, un peu de PLM, du CAD, du manufacturing, a permis d'apporter des nouvelles perspectives, voilà, des angles d'attaque différents sur des problèmes qui, historiquement, sont gérés par des gens de la production et des automaticiens. Hein. Et puis là, bah, une approche très logicielle, très décentralisée. Et ça a été un succès, puisque très rapidement, bah, j'ai fini par devenir le leader de cette équipe. C'est devenu Core Automation, une grosse équipe, 330 personnes quand même, avec supply chain, PLM, IT manufacturing, intelligence pour les usines. Tout ouais. ça, c'était des équipes qui étaient dans le groupe.
Okay.
Et là, j'ai appris énormément en 2 ans.
Ouais, bah, tu apprends en 2 ans ce que ça t'aurait pris peut-être plusieurs dizaines d'années dans, bah, dans d'autres pays.
La barbe grise, ouais. C'était cela. Hein.
Tu
as pris juste 2 ans et demi, non, sérieusement.
Ouais. Ouais, j'imagine. Et le niveau de pression, c'est, est-ce que t'as aussi tu sens une certaine pression? Je veux dire, est-ce que, parce que tu as dit, OK, on te fait confiance, on te donne les clés, etc. Mais est-ce qu'en échange aussi, tu as senti que la pression était beaucoup plus élevée? Comment tu ouais. vis ça quand tu es dans une boîte comme Tesla?
Alors, Tesla, c'est un microscope à balayage sur toutes les pratiques dont on a qu'on a évoquées.
Ouais.
Hein, la mission, l'engagement, le scrutin, c'est un accélérateur fois 100 000. Et trust but verify, c'est-à-dire que on n'a jamais l'esprit tranquille. On sait qu'il y a toujours un scrutin, il y a toujours une vérification, il faut toujours qu'il y ait du progrès. En face de ça, les principes bien pensants, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreurs. Il faut faire la promotion hein, des erreurs dans les itérations, etc., etc. Beaucoup le disent. Et puis, ben, on se fait virer le jour où on fait une connerie.
Ouais.
Là, c'est vrai. Moi, je n'ai jamais ouais. vu Ilan aussi heureux que le jour où on a cartonné une caisse de modèle 3. Sur la ligne, donc le body shop, c'est là où on soude les caisses ensemble. Mmh. Et puis, bah, on optimisait, on était en plein milieu de la nuit, et d'un seul coup, on cartonne un robot sur une voiture qu'on a fait tomber à 45 degrés. Là, on s'est dit, on est mort. Et Ilan était aux anges en disant, vous avez trouvé le sweet spot, donc vous avez trouvé le ouais. point à ne pas dépasser.
Point à ne pas dépasser.
Ça veut dire vraiment optimal. Ouais. Voilà. Donc on recule un petit
c'est la réaction
bon.
Qu'il a eue avec la dernière fusée qui a été envoyée. Tout le monde disait que ça a foiré. Et puis, je sais pas, moi, j'ai suivi ça de loin, mais j'ai vu que son tweet, ça a été, on a beaucoup appris, quoi. Et c'est la première réaction qu'il a eue, c'était de dire, on a beaucoup appris. Et là, ce que tu dis, c'est que c'est pas juste pour l'affichage, quoi. C'est qu'il est convaincu que c'est comme ça qu'on apprend en allant jusqu'au point de basculement et parfois en le dépassant, on apprend
c'est
beaucoup.
C'est ça.
Okay.
C'est ça. Donc ça, c'est très vrai. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Alors, et après, c'est jongler entre la réalité économique et la nécessité de produire, hein, et ça, c'est vrai dans les startups, c'est vrai partout, et let them fail, donc laisser l'erreur dériver un petit peu jusqu'à un moment où il va falloir contenir l'organisation et rebondir et en tirer des leçons pour s'améliorer. Mais jusqu'où va-t-on dans la dérive? Où on se dit on apprend encore plus parce que ça dérive encore plus, mais ça devient contre-productif.
Ouais,
donc il faut et donc la difficulté du management à l'américaine, moi je trouve qu'elle est là.
Ouais.
Là où en tant que Français,
s'arrête,
on a envie de corriger immédiatement.
Ouais. Ok, merci en tout cas pour cette perspective. Et du coup, donc à partir de là, je fais un petit raccourci, mais tu arrives aujourd'hui, donc on est là pour parler aussi de vitesse, enfin full speed automation, mais le logiciel dont on va parler, c'est vitesse. D'où te vient cette idée, parce qu'on va parler un peu de ce que tu as mis en place et ce que vous créez chez Vitesse, mais comment tu chemines de Tesla à cette idée autour de Vitesse et de la plateforme Vitesse?
Alors, j'avais déjà chez Vélo eu un aperçu du monde de l'automation comme un monde logiciel vétuste. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le monde des automates programmables, on utilise encore des langages qui ont été définis dans les années 70.
Okay.
Hein, même les robots industriels.
Là, on est en train de parler de robots, d'industrie du futur, d'industrie 4.0. Ouais. Ce que tu es en train de me dire, c'est que derrière ce qui fait tourner tout ça, c'est des logiciels des années 70.
Exactement.
Okay.
Exactement. Et c'est pour ça que si tu vas visiter la toute dernière usine quelque part d'un groupe et tu regardes par rapport à il y a une vingtaine d'années, en réalité, les notions de process, de robotique sont les mêmes.
Okay.
C'est pas flagrant. Un non-initié fera peu de différence, si ce n'est la qualité des écrans.
Ouais.
Voilà.
Le nombre de pixels sur l'écran. Quoi.
Exactement. Alors, et donc ça, déjà, à l'époque de vélo, puisque nous fabriquions ces grosses machines, c'est des imprimantes 3D à 2 millions de dollars, il faut relativiser. Et donc, il y a un automate dedans, et j'étais assez effaré de la lenteur avec laquelle on développait sur cet automate. Et ça, chez Tesla, avec le double... variable d'un côté les attentes très élevées, on fait l'usine du futur, industrie 4.0, tout doit aller très vite, etc. La pression de production, donc on a constamment l'impression d'avoir un pistolet sur la tempe et devoir faire l'impossible avec des outils qui ont 30 ans entre nous, même les toutes dernières versions de ces outils de développement.
Pourquoi c'est comme ça? T'en avais, pourquoi on n'a pas évolué? Parce qu'on n'est pas, plus bête que les autres sur la partie software, mais surtout le reste de l'écosystème, en tout cas le digital, il a beaucoup progressé dans tout un tas de domaines. On parlait en préparant notre épisode, on a parlé des applis, des smartphones, etc. On a fait un bond en quelques années qui est énorme. Et pourquoi ça n'a pas changé dans le firmware de l'industrie?
Alors, on va pouvoir spéculer énormément, mais moi, je pense que ça a été la relocalisation de la production en Chine.
D'accord.
Qui a figé un peu le monde des contrôles, de tout ce qui est automation dans les années 90. En fait, il y avait un progrès qui était réel jusque dans les années 95-96. D'un seul coup, l'automation devient tellement rentable que ça n'a plus besoin d'être au top.
Ouais, donc
dès qu'on a besoin d'être un peu plus rentable, on va relocaliser dans des zones moins chères. Donc, on le voit même avec des usines qui ont été rachetées par un groupe français pour faire une voiture d'origine roumaine, je crois. Et puis, même la Roumanie, c'est encore trop cher. Donc maintenant, les usines, elles vont en Turquie, elles vont en Chine.
Ouais.
Tu vois, donc c'est un peu ça qui a fait qu'on a arrêté l'investissement sur la technologie. Qui permettait de tirer la quintessence des travailleurs, malheureusement, avec l'impact sociétal.
Et on a ajusté sur les travailleurs les moins chers possibles, le coût de la manœuvre le moins cher possible. Okay.
Voilà, il y a ça. Et puis, en face de ça, il y avait aussi un développement organique dans les usines, répondre aux besoins des producteurs qui s'est déconnecté du monde du logiciel, comme tu le dis, qu'on a vu depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, avec le développement. Une start-up avec trois gus qui font une application iPhone. En 3 mois, ils vont réaliser le truc. La qualité va être super. Et puis, derrière, ils ont une stack qui est complètement scalable grâce au cloud, aux App Store et ainsi de suite. Ils n'ont pas besoin d'investir dans les infrastructures telles qu'on devait le faire il y a encore une quinzaine d'années.
C'est là qu'on a commencé à avoir cette divergence, alors qu'à la base, l'informatique est quand même née un peu dans les usines. Les premières applications de tableur, les premiers outils qu'on a vus apparaître il y a quelques dizaines d'années, c'était quand même... très souvent lié à l'industrie, lié aux usines, lié aux ingénieurs, etc. Et donc, on a vu apparaître cette divergence entre d'un côté la tech, en tout cas ce qu'on appelle la tech, et puis l'industrie d'aujourd'hui. Et l'idée donc de vitesse, c'est aussi de réconcilier un peu les deux, si je résume.
En tout cas, c'est exactement ça. Parce que, alors, ce ne sont pas les éditeurs logiciels pour les usines qui sont les seuls coupables, s'il y a des coupables. Les clients aujourd'hui sont devenus très conservateurs. Quand on a un outil industriel qui produit des millions, des milliards d'euros tous les ans, on reste
touché
deux fois avant d'aller toucher, malheureusement. Et donc, 5% de productivité en plus, c'est tentant, mais ça peut aussi faire un peu peur. Et une des raisons pour ça, c'est la quantité et la durée du travail à mettre en œuvre pour aller appliquer ces changements. Aujourd'hui, les automaticiens, les automaticiennes sont devenus les ingénieurs les plus rares d'Europe. Je discutais avec un milliardaire ukrainien qui est en ce moment à Londres et qui commence à réinvestir pour la reconstruction de l'Ukraine. Ouais. Voilà, ils sont confiants, à un moment, il n'y aura plus de guerre, on va rebâtir le projet.
C'est probable.
Ils me disaient que tous les ingénieurs ukrainiens, du voisinage en réalité, hein, de tous les pays baltes, Europe de l'Est, sont en mission en Europe de l'Ouest pour au moins 2 ans.
Ouais, donc, ils vont avoir beaucoup de mal à...
Il va y avoir un vrai problème. Ouais. Voilà. Donc, c'est là que... Et moi, j'ai rencontré le problème pour la Gigafactory de Shanghai. Ah, on en parle beaucoup, ça a été un grand succès. C'est la première fois, et sans doute la seule fois, que Tesla aura fait une usine dans les délais, sous les budgets. Donc, alors après, on a travaillé comme des brutes. Hein. J'ai eu plusieurs managers qui ont fait des burn-out. On était 300 personnes à coder. Moi, j'allais en Chine tous les mois. Ça n'a pas été facile non plus. Et donc, je voyais bien que tous nos partenaires bavaient devant ce que nous étions en train d'accomplir à Shanghai. Ils voulaient tous faire la même chose. Ils ont tous tenté, ils ont tous échoué. Et pourquoi ? Bah parce que Tesla, c'est un aimant à talent.
Ouais.
Donc, embaucher en 3 mois 300 personnes, on a eu le meilleur de la Chine, puis on a balancé des tas d'Européens, d'Américains, de Sud-Américains, des gens qui sont venus d'Afrique. On a vraiment staffé ça très rapidement. On avait une équipe top et on a pu livrer. Mais du coup, c'est pas du tout transposable au reste du marché. Et c'est là que j'ai commencé à entrevoir vitesse, à me dire il faudrait pouvoir démocratiser ces techniques de développement et d'itération rapide, mais en low code pour qu'une douzaine d'ingénieurs puissent accomplir là où
d'une cinquantaine, d'une centaine.
Voilà. Ok. Voilà. Donc et puis finalement. On a réussi à faire ça en no code. Donc, c'est même pas du low code, c'est du no code. On peut passer en mode code si on veut, hein, bien entendu. Mais donc, glisser, déposer dans un éditeur logiciel des propriétés, la relation entre des primitives de fabrication, hein, moteur, robot, capteur. Et ça permet de programmer très rapidement l'équipement pour, d'une part, le mettre en route plus vite, mais aussi pouvoir faire des changements au quotidien. Plutôt que de faire un gros changement trimestriel quand on arrête l'usine pendant une semaine ou deux.
Okay. Et ça, il n'y a personne qui avait pensé, enfin le no-code, le low-code, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui, tout le monde parle de ça dans la tech. En tout cas, c'est, on crée une app en quelques minutes, même si on n'a jamais écrit une ligne de code. Et dans l'Indus, c'est, paradoxalement, c'est quelque chose qui est relativement innovant. En tout cas, il n'y a pas grand monde qui a pensé.
Alors, ce n'est pas innovant dans le sens où il y en a plein qui l'ont fait.
Ouais.
Mais ça ne marchait pas.
D'accord. Et pourquoi ?
Alors, pourquoi justement ? On en a parlé un peu au début. C'est la couche horizontale qui va donner accès à toutes les primitives qu'on manipule, qu'on a dans le logiciel entreprise, dans les smartphones, le web, depuis bientôt 40 ans. Si tu prends ton ordinateur portable, il y a un système d'exploitation dessus, hein, il y a macOS, Linux, Windows. Windows, bah, ça permet une abstraction de tout ce qu'on va brancher. On va mettre un trackpad d'une marque en Bluetooth ouais, ou une souris de notre marque.
Sans avoir à programmer pour le connecter. Quoi.
On branche et ça marche. Pour le traitement texte, c'est la même chose. Hein, il y a un système qui indique où il faut cliquer. On en est très loin dans les usines. On ne remplace pas un robot d'une marque avec un robot d'une autre marque, même s'ils se ressemblent. Les protocoles, tout ça, c'est complètement différent. Donc chaque fois qu'on a voulu faire du no-code dans l'histoire du manufacturing, on se retrouvait confronté à faire une petite niche verticale.
Ouais.
Donc, il y a plein de boîtes qui l'ont fait, mais c'était…
sur leur technologie propriétaire, dans leur, voilà, dans leur écosystème.
Pour du contrôle qualité, en utilisant la vision, par exemple, pour… de la location dans donc géolocation pour la supply chain. Et puis, on se limite là. Et à chaque fois qu'il faisait un déploiement, il fallait intégrer avec les automates, les robots, en fonction de ce qu'utilise le client. Il fallait intégrer avec les ERP, MES, enfin, tout le back-end hein, du logiciel d'entreprise, un cauchemar. Et donc, l'approche avec vitesse a été de se dire, eh bien, on va faire le contraire. Nous, on va commencer par le bas. Comme un système d'exploitation, il y a les pilotes hein, souris, GPU, CPU, clavier, etc. On va commencer par ça. Donc, ça n'a pas été super sexy, ça a été beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on est monté à plus d'une trentaine de personnes à un moment donné l'an dernier pour pouvoir offrir cette virtualisation complète de tout ce qu'on va trouver dans une usine
D'accord.
et pour voir les faire communiquer, hein, de sorte que un capteur qui est sur un type de robot, on va pouvoir utiliser le signal de ce capteur pour démarrer un robot, hein, ou un moteur qui est sur un contrôleur complètement différent.
D'accord. Et ça, les fabricants, comment ils le prennent? Parce que souvent, ils ont aussi leur propre logiciel, si je comprends bien comment ça marche. Après, tu m'arrêtes si je dis des conneries. En gros, on a un robot, il va avoir son logiciel, son système d'exploitation, son logiciel dédié. Ils sont prêts à jouer le jeu là-dessus? Ou ces fabricants de pièces, d'automates,
ouais.
de robots?
Ouais, alors curieusement, oui. Ils jouent le jeu. Et les leaders, hein, nous, on parle avec les 3-4 leaders de l'automation dans le monde. Trois d'entre eux sont des partenaires,
d'accord,
hein, qui nous donnent du logiciel. Et eux, je pense qu'ils ont compris que c'est un peu comme les fabricants d'ordinateurs
et Windows, quoi.
Les éditeurs de logiciels.
Ouais, c'est ça.
C'est un écosystème. Windows permet à, j'en sais rien, Dell ou HP de vendre plus
d'ordinateurs
plus facilement. Ouais. Voilà. Et donc, je pense que c'est l'opportunité qu'ils y voient.
D'accord. Donc, l'idée, c'est qu'ils vont pouvoir ouvrir et aller vendre des robots là où on ne pouvait pas les vendre parce qu'il y avait un système qui était installé potentiellement et que c'était compliqué d'aller rentrer dans l'usine à cause de ça, quoi, probablement.
C'est ça, c'est ça. Et nous, on préconise même, hein, des automates, hein, donc des contrôleurs logiques,
ouais,
de gens qui, sur le papier, seraient nos concurrents, hein, à savoir des gens comme Beckhoff ou Siemens. Et en réalité, on est très amis. Et nous, on préconise du Siemens, du Beckhoff à nos clients pour faire tourner vitesse dessus. Et on vend aussi nos propres contrôleurs. Donc, on a développé depuis un an notre propre contrôleur industriel qui permet de couvrir le gap de ce qui est manquant entre un contrôleur traditionnel et ce qu'on pourrait faire dans une usine de nos jours.
Ok, je comprends, très clair. Et donc là, il y a 2 ans, vous créez la structure. Vous êtes aujourd'hui combien dans l'entreprise?
Aujourd'hui, nous sommes 16.
D'accord, 16. Donc là, vous êtes encore en stade de développement, si j'ai bien compris. La cible, en tout cas le marché pour ça, c'est plus, est-ce que c'est réservé à des fabricants automobiles, des gros, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être complètement accessible peut-être à des gens qui sont qui n'ont pas encore franchi entièrement ce pas vers l'industrie 4.0? Je pense à nos PME, nos TPE, enfin, TPE peut-être pas, mais en tout cas au moins les petites PME là, qui font 30, 40 millions, 20 millions en France, qui pourraient bénéficier de ça. C'est quoi la vision que vous avez par rapport à ce produit? C'est le démocratiser, l'ouvrir à tout le monde?
Alors justement, nous, la vision, hein, la mission, c'est vraiment les petites et moyennes industries.
Donc ça veut dire que je n'ai pas les moyens de me payer une équipe de 150 ingénieurs pour aller développer le truc. Je passe plutôt par une plateforme comme la vôtre,
bien sûr,
pour pouvoir aller faire les choses moi-même, quoi.
Exactement, parce que quand on y pense, hein, tu parles d'automobile. Une ligne tôlerie pour un véhicule, c'est au bas mot, si vraiment on est cheap, 25 millions d'euros.
Ouais.
Alors, il y a tellement de robotique et compagnie. C'est 25 millions d'euros minimum. Ça vaut le coup d'avoir un modèle dit waterfall, hein, où on va tout prévoir en amont et on va investir 2, 3, 4, 5 millions d'euros dans de la simulation, du logiciel, etc. en amont, pour ce que lorsqu'on déploie l'usine, on a un niveau de confiance élevé. C'est ce que font les constructeurs automobiles. Nous, dans l'absolu, ça ne nous intéresse pas plus que ça, d'aller leur faire économiser 1 million sur 25 millions.
Ouais.
C'est bien, hein, mais ouais, c'est pas le kiff pour nous, on va, ouais, dire. alors que, allez voir, moi, je suis en conversation là avec une PME, chiffre d'affaires, 6 millions de dollars.
Ouais, c'est vraiment une petite
boîte. Extrusion aluminium pour faire des portes vitrées. Voilà. Okay. Ils passent un quart de leur temps à prendre du profilé pour alimenter les machines de découpage, etc. Ils veulent mettre un petit robot Indus.
Le boulot, hein.
C'est un budget de 150 000 dollars à peu près, qui va augmenter leur productivité de 20%.
Ouais, donc, l'impact est beaucoup plus fort.
Voilà, aucun intégrateur ne leur
rapporte
150 000 dollars. Hein, on parle plutôt de 250, 300 000.
Ouais.
Et en plus, chaque fois qu'ils voudront faire une modification,
face à la caisse,
il faudra aller payer l'intégrateur,
ouais,
attendre 3 semaines que le mec soit disponible, etc., etc. Alors que nous, on fait le truc ensemble.
Ils prennent la main, c'est du code.
Ouais. Voilà,
Il
bah, c'est
peut
le
les
fils
gérer
du
ça.
patron. Il est un peu technique. Il aime bien coder des petits bouts. Il sait faire du Python. C'est plus qu'il en faut pour manipuler vitesse. Il va pouvoir prendre les choses en main. Ils vont faire évoluer leurs process, leurs interfaces humain-machine pour être optimal. Ça, pour moi, c'est excitant. Parce que c'est
D'accord.
ça qui va ramener l'industrie en France, en Amérique du
Justement,
Nord.
tu reviens à la question que j'allais te poser. C'est du coup, là, vous contribuez, enfin, je réponds parce que tu allais le faire, mais vous contribuez aussi à démocratiser, à faciliter un petit peu ce passage à cette industrie un peu plus automatisée. Quand on nous explique que c'est comme ça qu'on va réindustrialiser, ce n'est pas en ramenant des vieux métiers et des trucs manuels qu'on va y arriver. Donc là-dessus, c'est aussi un peu la vision, c'est de dire que ça, c'est le genre de détail, hein. Je ne dis pas que c'est un détail, mais de petits pas finalement qu'on va pouvoir déployer pour accélérer en fait la réindustrialisation du pays, quoi.
Oui, c'est même notre mission, hein. C'est la raison pour laquelle on a démarré Full Speed Automation il y a 2 ans et demi. C'était contribuer à rapatrier la production en Europe, en Amérique du Nord. Ça fait pas de sens de tout fabriquer en Chine. On défonce la planète. On impacte
Il y a
nos
beaucoup, beaucoup.
emplois. Voilà, il est temps de produire localement, hein.
Luc, merci beaucoup pour cet échange. Un petit mot de conclusion. Qu'est-ce qui te paraît important à faire passer comme message si on revient un petit peu sur notre échange? Qu'est-ce que je peux retenir ou qu'est-ce que notre audience peut retenir de notre conversation? Il y avait une chose à retenir.
On n'a pas parlé beaucoup d'innovation
Ouais.
et de capacité à faire soi-même ce qu'il est facile d'externaliser, mais qui fait partie de la mission. C'est-à-dire inclure dans l'innovation des disciplines qui ne sont pas forcément dans les core compétences de la boîte. Nous, chez Full Speed, on fait tout nous-mêmes au moins une fois. Donc
D'accord.
même la compta, par exemple, c'est un détail. Pendant 1 an, on a fait notre propre compta, ça a été un cauchemar. Et puis après, on a pris un cabinet, mais maintenant, on maîtrise assez bien le sujet. Donc on pense que c'est pas optimal, mais c'est pas mal. On
D'accord.
fait tout comme ça. Là, on a investi beaucoup dans nos propres méthodes d'impression 3D pour produire nos contrôleurs industriels, pour avoir une vraie maîtrise. Et on a appris suffisamment pour, d'une part, optimiser notre production,
Et
mais
puis pour
aussi
pouvoir
en termes de
l'externaliser
culture.
derrière, si jamais il y a besoin, quoi.
Et puis la culture de la boîte, de n'avoir peur de rien, être prêt à innover. L'innovation, c'est pas forcément un lab avec de la R&D et de la
De la
deep tech.
R&D,
Voilà.
ouais, je comprends ce que tu veux dire.
L'innovation, c'est au quotidien, tout le temps, toujours tout challenger. Voilà, moi, c'est ce que je retiens qui nous permet d'exécuter. C'est un mix de patience et de l'innovation permanente sur tous les sujets.
Donc, en fait, c'est ce que tu as appris finalement dans ce que tu décrivais chez Tesla, chez Adobe, qui t'a fait rester là-bas, parce qu'on sent que tu es passionné par ces sujets d'innovation. Et c'est ce que tu mets en œuvre aujourd'hui à ton niveau sur Full Speed Automation, enfin sur vitesse et sur la manière de développer. On innove sur tous les sujets et ça va peut-être aller jusqu'à la compta et à la façon de comptabiliser les choses dans le business model, quoi.
C'est
Ok.
ça, c'est ça. On a développé la traçabilité pour le contrôle de gestion, par exemple.
Ok. Bah, très belle conclusion. Je te remercie beaucoup pour cet échange, chers amis. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci, Luc.
Merci Karim, à bientôt.